Salut, c'est Arnaud Cassel.
Salut, c'est Florent Marché dans Pop Pop Pop.
Pop Pop Pop, c'est parti. Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. La France est ce pays où la littérature a une telle importance qu'on lui consacre une rentrée, ce qui laisserait entendre qu'elle est donc sortie à un moment ou à un autre, ce dont personne ne s'était avisé au vu des piles de livres qui encombrent les présentoirs des librairies. Et quand je parle d'encombrement, je ne pense pas seulement aux livres de Christine Angot qui, eux, ajoutent l'embarras à l'encombrement. Non, cette rentrée littéraire qui coïncide avec celle des prix, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Mauvaise parce que, comme chaque année, on a l'impression qu'on prend les mêmes et qu'on recommence, avec par exemple Le Fils du Fantôme de du Retour de la Revanche d'Amélie Nothomb, et bonne parce qu'il est réjouissant de vivre dans un pays où la littérature occupe encore une telle place, et pas seulement dans les cercles germano-pratins autoproclamés arbitres des élégances nationales. Ça tombe bien. Aujourd'hui, nous recevons une jeune femme de lettres, aussi blonde que je suis gris, enfin, poivre et sel, aussi douée avec les mots que je suis approximatif avec les paroles, aussi profonde que je suis léger et superficiel. Bref, l'invité idéal en même temps que le contrepoids nécessaire. Cécile Coulon est notre invitée.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Au menu de Pop Pop Pop, Cécile et Céline, Céline Dion, enfin celle qui remasterise Céline Dion, la chanteuse Safia Nolin, qui sera avec nous en live tout à l'heure.
Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas que moi l'aimer.
C'est elle qui sera près de nous tout à l'heure, mais avant Céline, Cécile, bonjour. Cécile,
bonjour.
Coulon. Je vous présente Charline.
Enchantée, Charline, bonjour.
Bonjour Charline.
Charline, voilà, tout le monde s'est dit bonjour. Alors Cécile Coulon, certes, mais je vous garantis que cette émission ne sera pas un naufrage. Et oui, pourquoi ne pas démarrer par une de ces belles saillies dont j'ai le secret?
Mais pourquoi pas.
Beaucoup d'élèves à l'école primaire en avaient le secret aussi. Hein.
C'est vrai?
Ah, ouais, carrément.
Elle vous rappelle les mauvais souvenirs, celle-là?
Mauvais, je ne sais pas, des souvenirs en tout cas. Ouais.
Des souvenirs, c'est essentiel. Cécile Coulon, pendant 232 émissions, j'ai posé cette même question.
Ah, pour vous, c'est quoi la pop culture?
Alors pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses dilatoires, saugrenues, intrigantes, poétiques, indéchiffrables. Parmi mes préférées, il y a celle de Bastien Vivès.
La pop culture, c'est aujourd'hui, en 2017, je pense que c'est un chapeau Star Wars porté fièrement par un obèse dans une convention. Voilà, c'est à peu près ça la pop culture.
Un chapeau Star Wars porté par un obèse fièrement dans une convention. Ça vous convient, vous voulez compléter?
Je trouve ça extrêmement drôle, et puisque c'est drôle, c'est pop. Et de manière un peu plus générale, je pense que je dirais que la pop culture, c'est tout ce qui nous fait comprendre qu'on n'est pas obligé d'être sérieux pour faire les choses sérieusement. Mmh. Qu'on a le droit d'être léger, d'être très drôle, voire un peu vulgaire. Moi, j'adore la vulgarité. Mmh. Je trouve ça assez beau, même.
Oh, vous allez nous adorer!
Ah ben, mais on m'a dit, ils sont vulgaires, venez, donc je suis arrivée.
Frappé à la bonne porte.
Et je pense que c'est ça, cette idée que même sous des choses en apparence très légère et très, très, très drôle, peut-être un peu trop drôle pour certaines personnes, il y a quand même beaucoup de profondeur.
Bien. Avant de parler de poésie, de Céline Dion et de pop culture, écoutons le dernier morceau de Hills qui s'intitule « Bone Dry ».
Cause you took all of it, sha-la-la. What becomes of men like me, drifting off, lost at sea? I'll set a fire, look up for it. Looking for me, I'm a pink sunset. Bone dry, sha-la-la. You drank all the blood. My heart is bone dry, sha-la-la. Can't give you more, cause you took all of it, sha-la-la. Bone dry. Sha-la-la, bone dry. You took all of it, sha-la-la. Sha-la-la.
Ils, morceau s'appelle Bone Dry. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous sommes aujourd'hui avec une poétesse. Est-elle venue dans ce studio avec son luth pour me donner un baiser que j'accepterais avec empressement s'il m'était proposé? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, un pop portrait, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Rourourourou.
Bah oui, mais là, non, en fait. Bah non, l'équipe, non, c'est pas charitable. Encore une fois, me voilà en position de devoir faire la mariole verbalement devant une plume admirable. Moi, j'avais dit à la fin de la saison 1, je fais les portraits à une condition, qu'on me donne du tacheron, de l'écrivaillon, du plumitif qui noircit au kilomètre. Comment voulez-vous que je brille, si vacillante soit la flamme, devant l'auteur de romans unanimement salués, voire primés, parmi lesquels Le Roi n'a pas sommeil, Le Rire du Grand Blessé ou encore Trois Saisons d'Orage? Cécile Coulon a publié son premier roman à 16 ans, Le Voleur de Vie. Et si tout ça n'était pas déjà suffisamment impressionnant, elle vient aujourd'hui nous parler poésie, parce que oui, c'est un art qu'elle maîtrise aussi. Moi, au max, hein, tel qu'Angie Girac, je peux éventuellement faire rimer espagnol avec épaule.
Pas mal.
Enfin, voilà. Certes, Cécile Coulon n'a pas besoin, elle, de faire rimer, hein, puisque sa poésie est en prose. Ah oui, est-ce que j'ai précisé aussi que notre invitée n'a même pas 30 ans? C'est-à-dire que moi, j'en ai 40, j'ai pas de Rolex, et la seule chose que j'ai écrite, c'est un CV dans lequel je mens effrontément. Non, mais achevez-moi maintenant.
Mais arrêtez de parler de vous, enfin. Cécile Coulon, premier roman à 16 ans.
Oui, mais alors. Il était extrêmement mauvais, donc ça rattrape un peu. Mmh.
Mais voilà. Est-il donc vrai que la valeur n'attend pas le nombre des années?
Je pense que c'est tout à fait faux.
Ah bon?
Ah, complètement.
Et pourquoi ça?
Je pense que c'est pas une question, comment dire, c'est pas une question d'âge, mais quand même, c'est bien de bosser un peu.
Oui.
Voilà. Mmh. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont soit, et je le dis parce que je le sais vu que j'en fais partie, qui ont été publiés très tôt, et c'est pas forcément pour la valeur du livre. Mmh. Donc, faut faire attention à ça. Mmh.
Le travail, mes enfants qui nous écoutez, c'est la seule valeur qui compte. Cécile Coulon, quand vous ne vous servez pas de votre plume, que faites-vous? Passons à votre pop-list. Hop. Nous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Et pour le livre, vous avez porté votre choix sur Alexis ou le traité du vain combat de Marguerite Yourcenar. Alors il s'agit de la lettre d'un homme qui explique à sa femme qu'il préfère les hommes. Charline, ce pourrait être un peu votre histoire. Resituez-nous le livre.
Oh, ne remuez pas le couteau dans la plaie béante, laissez pas. Enfin, vous savez. Le livre est paru en 1929 et l'intrigue se situe pendant la Première Guerre mondiale. C'est une seule et longue lettre au cours de laquelle Alexis explique donc à sa femme Monique qu'il est attiré par les hommes, son vain combat. Et c'est donc la troisième publication de Marguerite Yourcenar.
Bien, alors avant de savoir pourquoi vous choisissez ce livre parmi toute la bibliothèque planétaire de la pop culture, pouvez-vous nous en dire un extrait, Cécile?
Mais avec grand plaisir.
Je dis bien dire, car vous n'avez pas de papier sous les yeux.
Non. C'est la fin du livre, où Alexis écrit « N'ayant pu vivre selon la morale ordinaire, je tâche du moins d'être d'accord avec la mienne. C'est au moment où l'on rejette tous les principes qu'il convient de se munir de convictions, de scrupules, pour être exact. J'ai pris à votre égard d'impertinents engagements que devait protester la vie. Je vous demande pardon le plus humblement possible, non pas de vous quitter, mais d'être resté si longtemps. Et je dis aussi que cette dernière phrase, quand vous êtes en galère dans une histoire d'amour et que vous devez quitter quelqu'un, il faut l'envoyer par SMS, ça marche tellement bien.
Répétez-la.
Je vous demande pardon le plus humblement possible, non pas de vous quitter, mais d'être resté si longtemps. C'est magnifique.
Ah, c'est magnifique, magnifique. Vous connaissez beaucoup de livres par cœur comme ça?
Je connais plutôt des poèmes par cœur parce qu'on nous obligeait à l'école à les apprendre. C'était super d'ailleurs, moi j'aimais beaucoup faire ça. Il y a parfois des extraits. Quand j'aime vraiment, vraiment le livre, ça m'arrive parce que j'ai que ça à faire aussi. Enfin, je suis écrivain, donc j'ai pas d'horaire et tout ça. Et il m'arrive parfois d'apprendre des passages par cœur pour m'en rappeler un peu comme dans Fahrenheit, ce genre de film.
Et alors pourquoi ce livre vous a tellement touché, ce Yourcenar-là?
Parce que je me suis dit, publier en 1929 l'histoire d'un homme homosexuel qui écrit à sa femme pour lui dire qu'il la quitte. Et en même temps, il n'y a pas que ça dans ce livre. Je me suis dit, il fallait quand même un génie et une impertinence incroyable. J'ai découvert Marguerite Yourcenar par ce livre-là. Et pour moi, ça a été, je suis tombée amoureuse de son écriture, je suis tombée amoureuse de cette liberté, de ce côté rock'n'roll qu'elle avait. Parce que qui aujourd'hui est à ce niveau de liberté intellectuelle, de rigueur, de ton et d'écriture? Je ne connais pas d'autre auteur à ce niveau-là. Et ça a été un exemple à suivre, un modèle, une espèce de Pygmalion littéraire.
Bien, Cécile Coulon, voilà pour le livre. Votre film culte, c'est Boogie Nights de Anderson, de Paul Thomas. Oui. Mm-hmm. Film sorti en 1997 avec Burt Reynolds, qui remporta un Golden Globe du meilleur acteur d'ailleurs dans un second rôle. Charline, vous vous apprêtez à vous envoler aux États-Unis pour les obsèques de Burt Reynolds, avec qui je crois vous avez eu un enfant il y a longtemps, à l'époque de Boogie Nights. Deux mots sur le film.
Oh, ne remuez pas le couteau dans la plaie béante laissée par Burt. Boogie Nights se situe dans la Californie de la fin des années 70. Mark Wahlberg y joue un serveur repéré par un producteur de films porno, Burt Reynolds. Forcément, ces mensurations feraient passer Rocco Siffredi pour un eunuque, mais un autre acteur vient menacer le monopole Stookhead d'Eddie, qui part du coup sérieusement en toupie.
In 1977, a kid from nowhere.
Maybe think about your name. Something a little pizzazz.
Dirk Diggler.
Had a dream of getting somewhere.
Jack Horner has found something special in newcomer Dirk Diggler.
Pleasure was a business.
Cut. Terrific. Nice work.
And business was booming.
And the award for best newcomer goes to Mr. Dirk Diggler.
Wow.
Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, indispensable pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Pourquoi est-ce qu'il vous a tellement tapé dans l'œil celui-là?
Alors, je tiens quand même à dire que quand on m'a envoyé les questions, j'avais donné deux films, Barry Lyndon de Stanley Kubrick et Boogie Nights. Et en fait, je me suis rendu compte que les deux films, c'était la même histoire, mais pas au même moment. Et je pense que vous avez choisi Boogie Nights parce que ça parlait de cul. En fait.
Ah, pas du tout, alors c'est pas notre genre.
Enfin, non, parce qu'on m'a dit que vous étiez vulgaire, donc je suis venu pour ça.
Au contraire, on aime bien les films en costume, nous. Et puis quand ils les gardent.
C'est vrai que là, je pense que le costumier, la costumière, a pas eu beaucoup de boulot sur ce film-là. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Et je parle pas que des trois dernières minutes de film où on voit l'engin, mais immense de Mark Wahlberg. Après, j'ai su que c'était pas du tout le vrai.
Immense.
Ouais, quand même. Ça touche presque par terre.
Oui, je sais.
Mais c'était, c'était quand même. Un film qui brossait l'Amérique, les années 70, la jeunesse qui comprend rien à rien. Le personnage de ce film, c'est un débile fini qu'on adore, pas parce qu'il est débile, parce qu'en fait, il a juste envie de vivre un rêve. Et quand ce rêve se termine, il est toujours aussi con. Et en même temps, on a adoré vivre ce rêve avec lui. Donc ça, je trouvais ça génial. Et dans ce film-là, il y a une palanquée d'acteurs que j'adore. Il y a Julianne Moore, par exemple. Et il y a une actrice, ça c'est la petite anecdote du film, moi, qui m'a toujours beaucoup fait rire. C'est une actrice porno qui s'appelle Nina Hartley, qui est toujours vivante. Et elle jouait dans ce film-là. Et cette femme, elle a dit au moment de la sortie du film, vous savez, aujourd'hui, je couche avec des hommes qui sont plus jeunes que mes implants mammaires. Ça m'a beaucoup fait rire.
Excellent. Passons à la musique. Alors, pour la musique, vous avez choisi ceci. Homeward Bound de Simon & Garfunkel, c'est une chanson enregistrée en janvier 66 pendant les sessions de l'album Sounds of Silence et sortie en octobre 66 sur l'album Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, un bouquet de plantes aromatiques. Hein. Mais c'est pas fini, Cécile, parce que vous avez hésité avec ça.
On the Sunday morning sidewalk. wishing, Lord, that I was stone. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone.
Sunday Morning Coming Down de Chris Christopherson, c'est un morceau de 70. Alors pourquoi cette hésitation?
Mais en fait j'hésitais, j'avais au moins 10 chansons à proposer. C'est horrible hein, cette question, il faut le savoir.
Ouais.
Hein. Mais je pense que des gens vous l'ont
ouais,
déjà
ouais,
dit.
Bien sûr.
C'est
ouais.
affreux. Alors ces deux chansons-là, pour moi c'est des chansons qui me suivent depuis très longtemps, qui ont toujours le même effet, c'est-à-dire j'ai très très envie de pleurer et en même temps ça me fout une patate, donc je suis très en forme mais en pleurant, ce qui est assez rare pour être signalé aussi.
Ouais.
Et surtout, notamment pour celle de Simon et Garfunkel, la première fois que j'ai entendu, c'était sur un album live.
Central Park.
Oui, absolument. J'ai trouvé ça très beau, je comprenais rien. Mm-hmm. J'étais très jeune et donc je comprenais pas l'anglais. Je trouvais ça simplement très très beau. J'adorais cette mélodie. Et après, j'ai commencé à écrire des livres et à les défendre. Et je me suis rendu compte que ce que racontait, je crois que c'est Paul Simon qui a dû écrire la chanson.
Mm-hmm.
Ce que racontait Paul Simon dans cette chanson, c'est exactement ce que vivaient les écrivains. Actuellement, de passer de ville en ville et c'est toujours la même chose, et de voir parfois les mêmes visages et de fumer des cigarettes en lisant des magazines à la gare, c'est tellement ça. Et il y avait pour moi une espèce de transfert d'émotions tellement fort, et c'est une chanson que j'écoute encore beaucoup beaucoup aujourd'hui, tous les jours, que j'écoute tous les jours. Et l'autre, celle de Chris Christopherson, je suis un petit peu passionnée par Chris Christopherson.
Ah, vraiment. Vous aussi?
Ah ouais, complètement. C'est un petit peu malsain même, je pense, ma passion pour lui, parce qu'en plus maintenant c'est plus trop ce que c'était, mais quand même. Je crois que j'adore Chris Christopherson pour cette histoire où il a posé son hélicoptère dans le jardin de Johnny Cash pour lui proposer une chanson. Déjà, je me suis dit, le mec a de l'ambition.
Un
quand
hélicoptère,
même.
Déjà.
Ouais, déjà, voilà. C'est, il n'arrive pas à cheval, le type, quoi. Et surtout, je pense que c'est un type qui a écrit les plus belles chansons américaines des années 60-70. Ouais. Oh, c'est tellement beau. Ouais. Moi, c'est le seul mec qui a réussi à me faire aimer des chansons religieuses, par exemple, alors que je ne suis pas du tout... végétarienne.
Non.
Donc non, vraiment, j'aime beaucoup ces deux chansons-là parce que j'aime beaucoup leurs auteurs.
Je vous suis tout à fait, mais pour autant, sachez qu'ici, c'est comme à qui veut gagner des millions, il faut faire un choix. Alors, Cécile Coulon, terminons, s'il vous plaît, cette séquence avec votre choix.
Ça sera la réponse A.
La réponse A.
Antoine.
Simon et Garfunkel.
Absolument.
Très bien.
C'est mon dernier mot.
Voilà.
Ouah, putain, truc de ouf!
Ah, mais oui, putain, truc de ouf, parce que ça, c'est pour la série. Parce que là, vous avez fait un choix qui nous a littéralement scotché. Il s'agit de Melrose Place.
Est-ce que le générique en dit long sur la décennie durant laquelle ça a été diffusé?
C'est
je
ne
sais pas.
Laissez-moi exprimer un peu mon corps là-dessus. Une série diffusée aux États-Unis entre 92 et 99. Charline, vous qui ravolez et raffolez des savons à la bergamote, rappelez-nous le parfum de ce soap-là.
Le 4616 Melrose Place est une résidence située où vit un groupe de trentenaires dans un petit complexe de 8 appartements avec une piscine au centre de la cour. Et voilà, c'est le nœud de l'intrigue que l'on doit à Darren Star, qui avait déjà commis Beverly Hills 90210 et qui réalisera plus tard Sex and the City.
Alors à noter que les 4 premières saisons ont réuni entre 13 et 19 millions de téléspectateurs. En 94, les acteurs principaux ont fait la une de Rolling Stone. Ça a été la consécration. Cécile, vous aviez 2 ans au démarrage de Melrose Place. Ça veut dire quoi? Que vos parents vous collaient devant le poste?
Non. En plus, mes parents, ils écoutent l'émission. Ils doivent être dégoûtés, les pauvres. Ils me faisaient écouter de la super musique et voir des super films. Mais là, je dis ça. Et je tiens à dire quand même, encore une fois, quand vous m'avez envoyé le pitch, j'avais dit The Leftovers, je crois.
Mm-hmm.
Mais en même temps, celle que j'ai le plus vue, c'est Melrose Place. Parce que quand je rentrais du collège, et à 17h36, et ben c'est ce qui passait à la télé. Mm-hmm. Et quand je prenais mon goûter, c'est-à-dire des petits écoliers et du jus d'orange, pour être précise, je regardais Billy, qui était amoureux d'Amanda, mais en même temps, il sortait avec Allison. Donc, c'était très compliqué, tout ça.
Mm-hmm.
Et j'ai des souvenirs parfaitement intacts de ce qui se passe dans Melrose Place, c'est-à-dire pas grand-chose autour de la piscine, avec cette espèce de, comment dire, d'incarnation du rêve américain. Amanda, elle s'appelait, c'était une blonde aux yeux bleus.
Heather Locklear.
Exactement, qui après a joué dans les Looney Tunes.
Oui.
Elle était beaucoup mieux d'ailleurs, je trouve, avec le lapin Bibi et Coyote. Mais c'est vrai que j'ai regardé ça, du coup, pendant 5 ou 6 ans, tous les jours, pendant ça durait 40 minutes.
C'est un bon souvenir ou un traumatisme?
Bah, d'un côté, c'est un très bon souvenir parce que j'adorais regarder ça, et en même temps, je me dis, mon Dieu, mais quel temps j'ai perdu.
Vous auriez pu lire Tolstoï.
Par exemple. Mais ça aurait été un mauvais souvenir, peut-être.
Bien, je résume. Alexis ou le traité du vin combat, Boogie Nights, Homeward Band, Sunday Morning Coming Down et Melrose Place. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. et ça donne ça.
J'ai pris à votre égard d'impertinents engagements.
A kid from nowhere. Pleasure was a business.
Non pas de vous quitter, mais d'être resté si longtemps.
Sunday morning, coming down.
Voilà, ça vous résume bien, ça?
Non, ça me résume plus que bien. C'est peut-être un peu gênant pour moi, d'ailleurs.
Pas du tout, c'est un effet miroir dans lequel vous pouvez vous mirer, vous contempler.
Mais je me contemple.
Très bien. Cécile Coulon, avant de parler de littérature et de poésie, écoutons un morceau de Philippe Catherine qui va beaucoup vous plaire. Ça s'appelle « Mort à la poésie ».
Je fais de ma vie un chef-d'œuvre que l'on visite pour 100 francs tous les 2 ou 3 ans. J'écrase des insectes merveilleux sur des visages adolescents et absolument consentants. Je marcherai nu sur le pont neuf le 7 avril de 2009 en criant mort à la poésie, mort à la poésie. Je suis un homme en buvant des alcools blancs dans des endroits très déroutants. Jusqu'à Tunis le 7 avril de 2010 en criant mort à la poésie, mort à la poésie. Je suis un
à la poésie. C'est Philippe Catherine, c'est extrait de l'album 8e ciel. Mort à la poésie par un type qui lui-même est un poète. Il y a un paradoxe, toi.
Mais de toute façon, les poètes sont pleins de paradoxes et de contradictions, c'est pour ça qu'ils sont poètes. Laissons-le faire.
Vous diriez pas mort à la poésie, vous-même?
Moi, je dirais plutôt mort au poète, que mort à la poésie.
Au poète mort ou au poète vivant?
Mort au poète mort, parce qu'ils sont tellement lourds sur nos épaules qu'on ne peut plus rien faire derrière, c'est embêtant.
Bien. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon et Cécile Coulon, notre invitée. Alors voilà ce qui se passe. Votre éditrice Viviane Ami dit de vous que vous êtes une désespérée qui aime la vie. Alors j'ai l'impression, moi, en vous lisant, que ce soit vos romans ou votre poésie, que vous êtes en fait une vieille âme dans un corps de jeune femme. Vous avez ce sentiment de faire preuve d'une maturité un peu décalée par rapport à votre âge biologique ?
Alors déjà, mon âge biologique, vous savez pas. Peut-être qu'on m'a sorti du frigo pour venir à l'émission et que finalement j'ai 120 ans. Ceci expliquerait cela, peut-être. Mais même moi, je ne sais pas. Cette histoire de maturité, on en a beaucoup parlé. On m'en parle encore beaucoup. Je suis pas sûre d'être plus mature que les autres. Je pense juste que j'ai beaucoup lu, beaucoup vu de films.
Je peux vous le dire, vous êtes plus mature que les autres.
D'accord, d'accord. Donc, si je le suis, c'est parce que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu de films. J'ai beaucoup écouté de musique et je crois que je me suis remplie des histoires des autres. Donc je suis peut-être mature parce que je déborde d'histoires, mais d'histoires qui ne sont pas du tout les miennes.
Peut-être aussi que vous êtes bien conservée parce que vous avez fait le choix depuis longtemps de rester vivre à Clermont-Ferrand. Votre dernier roman, Trois saisons d'orage, avait pour cadre une nature proche de celle dans laquelle vous vivez au quotidien. Et vous dites souvent que ce sont les lieux qui nous créent et non pas l'inverse. Ça veut dire quoi? Que vous êtes auvergnate jusqu'au bout des ongles?
Ah, jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout de la langue, parce que bon, c'est quand même l'Auvergne, c'est le pays de la viande et du fromage. Et aujourd'hui, tout le monde parle de régime incroyable pour rester en forme. Et venez en Auvergne manger du Saint-Nectaire et de la viande, et vous allez vivre très longtemps, en vrai. Donc, faut essayer. Après, je suis assez persuadée qu'effectivement, quand on passe du temps dans certains endroits, on a tendance à être éduqué par ces endroits, à être modelé. On a un langage selon les lieux où on se trouve, et ça, je trouve ça très intéressant. C'est ce qui fait aussi la diversité de la littérature française. Et moi, je ne me vois pas vivre ailleurs parce que j'ai trouvé ma place, en fait. J'ai trouvé ma place et c'est là que j'écris le mieux. C'est là que je me sens bien. Et puis bon, oui, voilà, le fromage, la viande et le pneu, hein, puisque Michelin, Big Up, représente. Ça me plaît, en soi, ça me plaît.
Donc le pari à nous deux, balsaciens, ça nous intéresse
Je vais le laisser à Balzac. Visiblement, il y a plein de gens qui en ont besoin de cette phrase. C'est Paris à vous deux, peut-être. Voilà.
On va rester dans la géographie, puisque tous les chemins parcourus dans les Ronces, l'ouvrage qui vous amène aujourd'hui, vous ramène à Esahut, ville de la Drôme, qui donne son nom à trois de vos textes. Qu'est-ce que cet endroit de si particulier?
Alors, Esahut...
On ne dit pas le thé, mais
vous pouvez. Si vous êtes quelqu'un de très jaloux, par exemple.
Charline Roux, hein, c'est un peu...
Vous pouvez. Donc, Esahut, ouais. Allons-y. Esahut, c'est un petit village, tout petit village. Je crois qu'il y a plus de chiens que d'habitants, pour donner un ordre d'idée. Dans la montagne, dans la Drôme, et mon grand-père est du pied de la montagne. Et donc, c'est un endroit que je connais bien, où j'aime aller. Et la particularité géographique de cet endroit, c'est que le village est enfermé dans des mâchoires de pierre. Que moi je trouve superbe, mais que certaines personnes trouvent complètement anxiogène. Et pourtant, en fait, ma question, ça a été de me dire pourquoi moi, ça me fait tant de bien d'avoir cette espèce de carapace de pierre, alors que pour d'autres, ils veulent c'est les fuir absolument et c'est étouffant. Et à partir de là, je me suis mis à écrire beaucoup, beaucoup de poèmes sur cet endroit. Et du coup, à chaque fois que je reviens à Esahut, je vois ça autant avec mes yeux qu'avec mes tripes et qu'avec ma plume, ou plutôt mon clavier d'ordinateur. Et ça donne des choses toujours nouvelles. Il n'y a qu'une seule rue, hein, en fait. Il n'y a pas de plan du village puisqu'il y a une rue. C'est assez pratique, on ne se perd pas. Mais j'y retrouve à chaque fois un élément nouveau.
Dans une conférence TED à laquelle vous avez participé à Clermont-Ferrand, vous vous comparez à un blaireau, un animal sédentaire, hein, s'il en est. Alors, on a coutume de dire que les voyages forment la jeunesse. Est-ce que ça veut dire que le vôtre est tout intérieur?
Alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait voyager quand j'étais petite. Donc, pour moi, voyager n'est pas un problème, j'aime ça. Mais je crois que la grande qualité du voyage, c'est de se dire qu'on peut revenir, finalement. Il y a une phrase que j'avais citée dans un livre que j'avais écrit qui s'appelait « Les grandes villes n'existent pas », qui disait... Il y a des lieux qu'on quitte pour rêver d'y retourner et il y a des lieux qu'on ne quitte pas pour rêver d'en partir, justement. Et je pense que ça, c'est le terreau de l'imagination, et donc de la musique, du cinéma, de la littérature, de la sculpture, de la photo. Et c'est vrai que j'ai pas le sentiment de devoir, ou en tout cas je n'ai pas l'envie d'aller très très loin, d'aller découvrir des choses qui sont à des milliers de kilomètres, parce que j'ai encore tout un pays à découvrir. Donc je fais petit pas par petit pas. Je suis un vrai blaireau, hein, vraiment.
La poésie qu'on peut lire dans Les Ronces est narrative. Chaque texte raconte une histoire. Est-ce que ça signifie que vous n'êtes pas de nature contemplative?
Oh, la question qui tue.
Charline Roux.
Il en fallait une à un moment.
Merci Charline.
C'est dans le plat.
Je bloque ses paroles, Charline.
Très bien.
Je...
Vous voulez qu'on reparle des blaireaux?
Non, mais en plus, c'est une question très intéressante. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre sur un... dans une même phrase le fait de contempler la vie et pourtant de décrire des histoires qui sont très rapides et très
avec
fluides.
Un début, un milieu, une chute.
Alors, il se trouve que j'essaye d'écrire les poèmes que j'aimerais lire. Moi, j'ai quelque chose de l'enfance qui est resté, c'est que j'aime qu'on me raconte des histoires. Et si possible, des histoires où je comprends quelque chose. Alors, je me dis, voilà, si j'écris un poème, je vais raconter, ça peut être un moment dans un kebab à Clermont-Ferrand, ça peut être une course à pied vers Ésaü, ça peut être une rupture amoureuse, n'importe. Mais le but, c'est de le faire de la manière la plus simple, la plus directe, la plus précise. Mais en revanche, pour avoir cette manière d'écrire là, ça demande du temps de contemplation, justement.
Un mot du titre du recueil, Les Ronces, un arbuste à épines, ça n'aurait échappé à personne, certes, mais dans lequel on finit par trouver des murs. Qu'est-ce que ce titre raconte du recueil ?
Charline, c'est dans Les Ronces que vous avez fini par trouver la mûre ?
Oui, entre autres.
Toujours.
Magnifique.
Cette émission est truffée de vannes.
De bonnes blagues.
Et c'est pas
alors,
fini.
Ouais, bah, j'espère.
Des vannes soit préparées, soit impromptues.
Non, mais c'est mignon.
J'espère que ça vous plaît.
Non, mais ça me plaît beaucoup. Si je rigole, c'est pas par dépit. C'est
pour
parce que j'ai envie
à la
de
question.
Le titre, Les Ronces, on va pas dire c'était pour avoir du piquant parce que c'était vraiment mauvais comme blague. D'une part, je trouve ça très beau. Je trouve que l'idée qu'il faille se faire mal avant de trouver quelque chose de bon derrière, pour moi, c'est la curiosité, en fait. Et puis, j'ai appris qu'on faisait du miel de ronces. Je me suis dit, ça doit faire mal à la langue. Mais j'ai trouvé ça très beau, cette image, de me dire qu'on peut faire du miel de quelque chose qui rebute et qui fait mal à tout le monde. C'est incroyable. Ouais, c'est comme un livre de Christine Angot, finalement.
Je reviens à l'humour, qui est tellement cher à nos cœurs. Sur Facebook, on découvre aussi une autre Cécile Coulon, très facétieuse. Tiens, par exemple, ce message datant de juillet, après la bagarre Booba-Caris, je vous cite, « Deux rappeurs qui se mettent des claques au duty-free. Si ça se trouve, Booba a pris le dernier flacon de Scorpio Rouge, édition limitée, alors que Caris, bloqué au rayon hydratation de la barbe, avait dit « Proms ».
Mais j'aime bien commenter les choses comme ça. En fait, j'aime bien quand l'actualité est ridicule, le meilleur moyen c'est de la prendre de manière ridicule.
Mm-hmm.
Puis en plus, c'est quelque chose. Alors là, pour le coup, c'est très pop culture. Mm-hmm. Deux rappeurs qui se mettent sur la gueule dans un duty free.
C'est trop beau pour être vrai.
C'est trop beau pour être vrai. C'est comme si quelqu'un allait braquer un Sephora, quoi. Enfin, mm-hmm. c'est tellement improbable. Que le mieux, je crois, c'est de s'en amuser. De manière générale, le mieux, c'est de s'amuser de tout.
Toujours sur Facebook, alors je sais que vos parents écoutent, mais tant pis. Hein, vous y dévoilez aussi un aspect coquin de votre personnalité. Témoin, ce message du 2 septembre, il y a tout de même un bon côté au fait de rentrer de vacances entre amis, c'est qu'enfin, on peut mater son petit porno sans les écouteurs.
Et c'est vrai.
Mais oui, c'est vrai,
bien sûr.
Est-ce
que c'est de l'humour, ça ?
Non, c'est une vérité. Ça, c'est la vraie vie.
Et ça sera mon programme politique si je me présente un jour ?
Et alors, figurez-vous,
porno sans écouteurs.
Figurez-vous qu'on fait tout pareil à Pop Cécile. Et comme on rentre juste de vacances, tiens, petit cadeau pour vous.
Eh ben, je suis pas fâchée d'être venue.
Je propose qu'on revienne à la poésie, ça vous dérange pas ? Si on voit dans votre recueil une forme de journal intime, est-ce qu'on se trompe ?
Non,
on peut passer de ça à ça. On peut complètement passer de texte de son.
Ah, mais c'est très bien. Vous ne vous trompez pas. Moi, je trompe tout le monde, mais vous ne vous trompez pas.
Non, c'est-à-dire que les textes ont été publiés à l'origine sur Facebook.
Ouais, complètement. Ouais. C'était des poèmes que je mettais sur Facebook. Je me suis même inscrite sur Facebook pour publier des poèmes, puisqu'on me disait de toute façon, publier de la poésie, ça sert à rien. Au pire, fais un livre sur le fitness ou la course à pied, ce que j'ai fait d'ailleurs, entre parenthèses. Et en fait, j'ai vendu plus de livres de poèmes, de recueils de poèmes, que de livres sur la course à pied, ce qui est incroyable aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout de 3-4 ans, il y a une telle communauté de lecteurs qui s'est formée autour de ces poèmes-là, que je me suis dit, essayons. Et c'était une bonne idée.
Cécile Coulon, le livre s'appelle Les Ronces, ce recueil de poésie, et c'est aussi beau et intense que vos romans. On est ravis de vous avoir dans cette émission. Ne bougez pas, c'est pas tout à fait fini. On a fait un peu le tour, enfin... Premier tour d'approche de vos capacités. Est-ce que vous savez faire ça ?
Non.
Non. Alors c'est un
Je peux faire ça.
Mais pas.
Non, je pense que j'y arrive pas.
Non,
et pas la mâchoire assez.
Assez souple.
Assez souple. Il y a des choses que je fais pas beaucoup avec ma mâchoire, visiblement.
Bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'était juste pour lancer les pop news.
Mmh.
Une bande-annonce des plus alléchantes pour une série française. Oui, monsieur, son titre Ad Vitam, on la doit à Sébastien Mounier et Thomas Caillet, réalisateurs du très prometteur et primé Les Combattants. Pour ce qui est de l'intrigue, Ad Vitam nous plonge dans un monde dans lequel on pense avoir vaincu la mort. Sauf que sept cadavres de suicidés mineurs sont découverts. Darius Yvan Attal, flic âgé de 120 ans, mène l'enquête.
La cause de la mort est la même pour tous, tir à bout portant sur la tempe droite. Ceci est le signe d'appartenance à une cellule pro-suicide.
Écoute, je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai besoin de toi.
Je suis instable, psychotique. J'ai des excès de violence.
J'arrive à 277 disparus durant les 6 derniers mois.
Une heure et demie, c'est nous, tous ceux qui se régénèrent.
Vous pouvez pas gagner. Parce qu'elle crevait alors que vous, vous êtes tous obsédés par l'idée de vivre.
Tout votre paratard pour justifier ces morts inutiles, je vous laisserai pas recommencer.
Je parle aux vivants, pas aux morts!
Au casting, outre Yvan Attal, Garance Marillier, révélation de grave, Neil Schneider vu dans Diamant Noir et Rod Parado, petite merveille césarisée pour la tête haute, Ad Vitam, c'est bientôt sur Arte.
C'est un drame historique encore, frais dans les esprits, qui donne son sujet au nouveau film du Danois Thomas Vinterberg, Festen, celui du Kirksen, sous-marin nucléaire russe naufragé en 2000. Au casting, Léa Seydoux, Colin Firth et Mathias Schoenaerts. Bande-annonce glaçante.
It's the Kursk. Something happened.
Report. Two acoustic events.
Mother of God.
Survivors?
Captain! We heard something happened to the Kursk.
Yes! They will try again! But trust me, they will!
C'est le Kursk, me signale Charline, et non pas le Kursk, bon, de toute façon il est coulé, hein, de Thomas Vinterberg. C'est le 7 novembre au cinéma.
Bottle It In, c'est le titre du nouvel album de Kurt Weill, membre fondateur de The War on Drugs, qu'il a quitté 3 ans après leur début afin de poursuivre en solo depuis maintenant 10 ans. Un album dans la plus pure tradition villienne, hein, folk classe et planant, jolis arpèges, à l'instar de l'un des premiers titres dévoilés, Bass Ackwards.
I was on the moon. But more so, I was in the grass. So I was chilling out, but with a very drifting mind. So I was on the ground, circa planet Earth, but out of sorts. But a snapback baby.
Bottle It In sortira le 12 octobre et Kurt Weill sera en concert le 29 octobre à la Cigale à Paris.
France Inter. Pop pop pop. Antoine de Caunes.
Oui. C'est moi. J'aime le Kursk.
Merci Charline, Céline Coulon. Ne bougez pas avant d'accueillir la chanteuse Safia Nolin. Écoutons-la avec ce morceau, Le Miroir.
Je m'excuse de mon corps. Je sais que j'ai changé le temps, changé le fond de ma taille. J'ai oublié de te mordre les doigts pour te montrer quoi ne pas taire. Je m'excuse de mon cœur pour mon corps, mais mon arrêt de mort est loin. Miroir, excuse de mon corps. J'ai jamais voulu changer le ton. Je m'excuse de mon cœur pour mon corps.
Le miroir, extrait du prochain album de Safia Nolin, qui sortira le 5 octobre prochain. Et Safia Nolin vient de faire son entrée dans notre studio. Bonjour Safia Nolin.
Salut.
Avant de nous interpréter un titre de Céline Dion en live hein, sur la scène mythique de Pop Pop Pop, faisons connaissance. D'abord, comment s'appelle le prochain album qui sort le 5 octobre prochain ?
Dans le noir.
C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui se passe ?
Mais les gens ne le voient pas.
Qu'est-ce qui se passe ?
Ah !
Tout s'éteint, mais tout s'éteint.
Waouh, okay, wow. On est dans le noir presque.
Mais nous sommes presque dans l'or. Mais voilà de l'humour radiophonique.
Incroyable.
Dites-moi, Safia, vous êtes une auteure, compositrice, interprète québécoise.
Oui.
C'est bien cela. Mm-hmm. Première question, est-ce que vous pouvez me dire sincèrement ce que vous pensez de mon accent québécois ?
C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse.
Dégueulasse à vomir par terre.
Ah, dégueulasse à vomir par terre. Très bien. Deuxième question.
Je crois que l'expression est bien sentie.
On aurait dit, genre, que t'avais un problème dans la bouche, genre une douleur atroce.
J'ai une douleur atroce dans la bouche. Deuxième question, j'aimerais casser une légende urbaine. Pouvez-vous me confirmer que l'expression tape dans le fond,
oh,
je suis pas ta mère,
non.
Entendu dans un film de Xavier Dolan, n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Ne me regardez pas comme ça, Charline, ça va.
Tape dans le fond, j'ai jamais entendu ça de ma vie.
Vous avez jamais entendu ça ?
Non.
Ok, très bien. Alors, allumez le studio, s'il vous plaît.
Safia Nolin, à propos de votre musique, vous avez déclaré au site Rock and Folk, une expression qui m'a beaucoup plu. Faire du folk dans le bois, c'est fini. Est-ce que c'est une attaque en règle contre Francis Cabrel ou Bon Iver ? Et c'est quoi faire du folk dans le bois ?
Ben, je sais pas, c'est juste que il y a une piste un peu vers le bois, clairement. Pour ce qui est de, j'avais pas envie de prendre une photo dans une forêt, puis de faire à croire que je compose mes chansons dans une cabane.
Pas au fond du jardin.
C'est pas le cas.
Vous avez une manière résolument moderne de vous approprier le genre, en gardant les codes, hein, soit une belle guitare et une tristesse infinie. Est-ce aussi parce qu'en dehors de vos illustres pères à chemise à carreaux, dont on parlait il y a un instant, vous êtes aussi fan de Britney Spears, des Backstreet Boys ou de Céline Dion?
Oui, je suis un peu, une espèce de melting pot, je sais pas si vous utilisez cette expression, de plein de choses, dont l'amour de Céline, les Backstreet Boys, les Jelly Beans.
Et Lady Gaga.
Et Lady Gaga.
Et Lady Gaga, elle tient la preuve avec la reprise en 2009 sur YouTube de Bad Romance. Alors, à l'époque, vous postiez ces covers pour devenir amis avec les artistes. Vous avez eu un message de Lady Gaga suite à la reprise?
Non. C'est tant mieux. En même temps, j'aurais aimé ça. J'aurais été triste qu'à l'entendre ça.
Au-delà de l'écriture, Cécile Coulon et Safia Nolin, vous avez un autre point commun. Est-ce que vous le connaissez toutes les deux?
Non. Les cheveux.
Ouais.
Vous avez toutes les deux des cheveux.
Oui. La couleur blond platine.
Ah oui.
Ouais,
non,
ça.
Moitié blond pour vous.
Ouais, moi c'est à moitié.
Oui. Moite.
Ouais, non. C'est votre passion pour le fromage.
Ah super. Ouais. Je suis vraiment ravie de te rencontrer.
Cool, enchantée pour femme de fromage.
Pour vous, Cécile Coulon, c'est le Saint-Nectaire. Ouais. Et pour vous, Safia Nolin, la burrata.
Ouais.
Alors attendez. Je ne sais pas si vous le savez, mais ici, le pitch de l'émission est simple. C'est Hollywood avec 2,50€. Alors faites entrer un plateau de fromage.
Je tiens à dire qu'il y a du fromage sur le plateau.
Oui. Wow.
Du Saint-Nectaire et de la burrata.
Merci Colin. Colin, c'est notre stagiaire. Donnez ce fromage à nos invités.
Incroyable.
Voilà qu'on puisse continuer l'interview. Je vous prie, une interview cheesy.
Oh.
Vous avez déjà fait une interview cheesy?
Non.
Non? Jamais?
Mais peut-être, mais pas avec du vrai fromage à côté.
Ok, c'est ma première. Je peux avoir un petit morceau, merci Cécile. Alors, d'où vous vient d'abord cette passion pour la burrata?
Je pense que j'avais entendu parler de la burrata. Arc, dégueu.
Allez-y, hein,
j'en avais entendu parler comme légende, un peu comme le monstre du Loch Ness. Puis là, quand je suis venue en France, je me souviens que je l'ai vu sur un menu, puis j'ai fait « bon, ok ». Puis là, je l'ai mis dans ma bouche, puis après, je me suis évanouie de tellement de... C'était tellement délicieux. C'est pas vrai, là. Mais après ça, j'ai fait une obsession. Je me souviens, l'année dernière, ils m'ont demandé un nom de tournée, puis j'ai dit... Ça s'appelait le Burrata Tour.
Le Burrata Tour.
Ouais. N'importe quoi. Ce qui est possible de faire avec une burrata, je vais le faire.
Et vous, Cécile?
Alors, par contre, est-ce que je peux poser une petite question?
Allez-y, allez-y.
Le Saint-Nectaire qui met, enfin, les morceaux de Saint-Nectaire, le soi-disant Saint-Nectaire qui sont là, est-ce que quelqu'un a frictionné une chèvre avec? Parce que c'est incroyable, hein, quand même, hein.
C'est vrai.
Je suis en train de me faire une inhalation en même temps.
C'est non, notre jeune stagiaire, Coulon, c'est parce qu'il a fabriqué avant. Non, il est très parfumé. D'où vient cette passion pour le Saint-Nectaire, vous?
Je pense que je suis tombée dedans quand
c'est
j'étais
dans vos
petite.
Gènes.
Ouais, il se trouve que quelqu'un de ma famille travaille dans le Saint-Nectaire, littéralement. donc je suis presque un peu obligée d'aimer ça, mais en même temps c'est vraiment très bon.
Et s'appeler Coulon quand on est passionné de fromage, c'est amusant, non?
Ah, c'est drôle. Est-ce qu'il va y en avoir une troisième avant la fin de l'émission?
Moi, je voudrais qu'on profite de cette interview pour percer un mystère. Pourquoi les chanteuses québécoises ont-elles toutes de grandes voix? Qu'est-ce qu'ils mettent dans vos biberons?
C'est un peu énervant, d'ailleurs. Bonne question. J'ai aucune idée.
Mais parce que toutes celles qui s'exportent chez nous ont toutes de grandes voix. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est dans des registres
c'est vrai.
Différents et particuliers, mais quand même, quoi.
Mais j'avais entendu ça de plein de gens, en fait. Mais je crois que c'est un mythe, en fait. Dans ma tête, à moi, c'est un mythe. C'est pas vrai. Je crois.
Ah, si, quand même.
Pour vrai, c'est vrai? Vous croyez que c'est vrai?
Oui. Oui, je pense qu'il y a une explication à chercher au niveau de...
Celle qui chante le plus fort, d'après moi, pour se faire entendre. Je sais pas. Pourquoi je sais pas?
C'est pas faux.
Comment vous définiriez votre musique, Safia Nolin? Du rock fragile, riche en coups de blues? Comme disent les Arocs, c'est pas évident, hein, de parler avec du fromage non. entre les dents.
Moi, je dis tout le temps que c'est de la chanson déprimante. Là.
La chanson déprimante?
Mais du folk déprimant. J'aime pas le mot chanson, je sais pas pourquoi. Je sais pas si ici c'est pareil, mais au Québec, dans ma tête, c'est un peu péjoratif, le chanson. Je sais pas pourquoi, exactement.
Vous aimez bien les chansons déprimantes?
Ouais. Toutes mes chansons sont déprimantes.
Vous êtes déprimée vous-même?
Non, mais c'est grâce à ça que je suis pas déprimée, je pense, en fait.
C'est-à-dire qu'en fait, en chantant des chansons déprimantes, vous déprimez les autres, mais ça vous épargne la déprime à vous-même.
Ben, je pense pas que j'ai déprime, parce que moi, en fait, j'aime écouter de la musique. Ça serait vraiment égoïste de déprimer tout le monde pour être...
Mais vous aimez Bon Iver.
J'adore, mais tu vois, c'est de la musique déprimante, mais ça me fait du bien. Mais alors, parce que je pleure, puis après, c'est fini.
Mais d'accord. Pourquoi reprendre du Céline Dion?
Parce que Céline, c'est Dieu. C'est tout.
Ah, Céline, c'est Dieu.
Non, mais pour moi, je l'adore.
Vous avez même dit qu'elle était grunge. Ce qui m'a pas frappé de prime abord,
punk.
Mais...
Je trouve que Céline, c'est la plus punk. Pour vrai, j'ai trouvé des photos d'elle. Moi, j'aime dans toutes ses passes, sauf peut-être Tout l'heure des hommes, que ça, je déteste ça. Mais je la trouve rock. T'sais, je trouve qu'elle est allée au Grammys. J'ai trouvé une photo d'elle au Grammys. Tout le monde pense que c'est du Photoshop. Où est-ce qu'elle apporte une robe est transparente? On voit ses seins, on voit son cul, puis elle apporte un string. Puis je trouvais ça genre grandiose, tu sais, d'être à la fois genre cette fille-là au Grammys en 92 et la chanteuse de la
diva
chanson,
absolue,
une diva. Puis là maintenant complètement genre libérée parce que son vieux mari est mort, mais bon, ça c'était vraiment horrible. Je m'excuse, désolée.
Safia, vous nous avez promis une cover de Céline,
hein,
donc si vous voulez bien rejoindre la mythique
je
scène,
la bourrate.
je vous la garde. Si vous voulez bien rejoindre la mythique
dans la guitare,
scène de
aussi.
Pop 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 pour nous interpréter en live le titre d'amour et d'amitié de Céline. Vous êtes prête, Safia?
Oui.
Attendez mon petit pop pour démarrer.
Okay,
et c'est parti. 3, 2, 1.
Il pense à moi, je le vois, je le sens, je le sais. Et son sourire ne ment pas quand il vient me chercher. Il aime bien me parler des choses qu'il a vues, du chemin qu'il a fait et de tous ses projets. Je crois pourtant qu'il est seul et qu'il voit d'autres filles. Je ne sais pas ce qu'elles veulent, les choses qu'il dit. Je ne sais pas où je suis, quelque part dans sa vie, si je compte aujourd'hui plus qu'une autre pour lui. Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Lui seul peut décider quand.
qu'on se parle d'amour ou d'amitié. Moi je l'aime et je veux lui offrir ma vie, même s'il ne veut pas de ma vie. Je rêve de ses bras, oui, mais je ne sais pas comment l'aimer. Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié. Et je suis comme une île en plein océan. On dirait que mon cœur est trop grand. Rien à lui dire, il sait bien que j'ai tout à donner. Rien qu'à sourire, à l'attendre, à vouloir le gagner. Sont tristes les nuits, le temps me paraît long et je n'ai pas appris à me passer de lui. Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Lui seul peut décider qu'on se parle d'amour ou d'amitié. Moi je l'aime et je veux lui offrir ma vie, même s'il ne veut pas de ma vie. Je rêve de ses bras, oui, mais je ne sais pas comment l'aimer. Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié. Et je suis comme une île en plein océan. On dirait que mon cœur est trop grand.
Bravo! D'amour et d'amitié de Céline Dion, remasterisée par Safia Nolin sur France Inter pour Pop Pop Pop. Merci Safia Nolin. Dans le noir, votre nouvel album sort le 5 octobre prochain. Il est déjà disponible en précommande. Vous serez en concert en France au mois de novembre. Toutes les dates sont à retrouver sur la page de l'émission. Et nous serons présents le 12 novembre pour votre concert parisien au point éphémère. Merci Cécile Coulon. Les Ronces, votre recueil de poésie est disponible aux éditions du Castor Astral. Et votre dernier moment, 3 saisons d'orage, roman qui vous a valu le prix des libraires, est sorti en poche juste avant l'été. Merci.
Merci à vous.
D'avoir accepté
et
notre
invitation. Et merci pour le fromage, surtout.
Vous partez avec. Demain, dans Pop, 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 lui.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Eh oui, Édouard Baird sera notre invité. Nous l'attendons impatiemment. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine Decaune. J'arbore un coquelicot pour lutter contre les pesticides avec Fabrice Nicolino, notre invité.
C'est
journaliste. Bien sûr.
On vous retrouve juste après les infos.